Bonjour à tous. Comme son nom l'indique, une prédication, c'est un message qui est basé sur la Bible. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, parce que c'est ce qui est notre référence, la parole de Dieu, qui est tout pour nous, celle qui a créé ce monde. Et pour aujourd'hui, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Je me suis réjoui, comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. On va commencer par prier. C'est vrai, Seigneur, nous pouvons avoir l'impression que ce matin, nous avons un message extrêmement simple, facile à comprendre pour tous. Se poser même la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler? Mais c'est vrai aussi que c'est au travers de choses très, très simples que tu nous dis finalement les choses les plus fondamentales, des choses qui finalement vont diriger notre vie chaque jour, à chaque instant. Et c'est vrai que c'est bien aussi de s'arrêter sur des choses simples, mais des choses qui finalement sont celles qui vont déterminer ce qui est notre vie tous les jours, qui vont déterminer toutes nos actions, qui vont déterminer toute notre réflexion. Et merci Seigneur aussi parce que ce que tu nous apportes de plus fondamental souvent, c'est des choses les plus simples. Tu ne nous demandes de faire rien de compliqué, tu nous demandes simplement de nous remettre en toi, de nous ancrer en toi, et de t'avoir comme seul Seigneur et Maître, de ne regarder qu'à toi. C'est vrai, ça n'a rien de compliqué, mais finalement, ça change complètement. Ça change toute notre vie. Ça nous transforme du tout au tout. Et c'est ça qui est le miracle de ce que tu accomplis en chacun d'entre nous. Merci encore, Seigneur, de ce que vraiment tu es là pour nous chaque jour. Et nous voulons encore ce matin te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu, notre Créateur, notre seul Maître, celui aussi qui nous a sauvés, délivrés de l'emprise de Satan. Amen. Je vais juste me remettre un peu dans le contexte de ce texte pour comprendre pourquoi l'apôtre Paul parle de ça. C'est vrai que l'apôtre Paul, par rapport aux chrétiens de Philippe, a une relation très particulière. Il y a une proximité qui est particulièrement importante entre Paul et les Philippiens, qui sont les destinataires de cette lettre. une relation beaucoup plus proche, une relation beaucoup plus affectueuse, beaucoup plus fusionnelle même entre l'apôtre Paul et les Philippiens. Et ça se vérifie aussi dans l'autre sens, quand on voit, notamment dans cette épître, tout ce que les Philippiens sont prêts à faire pour apporter leur aide à Paul. On voit vraiment qu'il y a une affection, un amour, qui sont d'ailleurs, comme le dit Paul à un moment donné, les seuls à avoir manifesté d'une manière aussi forte et d'une manière aussi assidue. Comme souvent dans ses autres épîtres aussi, Paul est désireux plus que toute autre chose que tous les membres de l'Église de Christ puissent demeurer fermes et ancrés dans le Seigneur, fermes et ancrés dans l'obéissance à tout instant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes fermes, quand nous sommes ancrés dans le Seigneur à tout instant? Pourquoi nous le faisons? Alors, la conséquence dans notre vie de rester dans le Seigneur, c'est que nous sommes vraiment dans cette espérance du salut à tout moment. Nous sommes vraiment dans cette espérance de l'accomplissement de ses promesses. Nous vivons totalement dans l'espérance d'entrer dans ce corps céleste, de ressembler à Jésus-Christ, d'entrer dans ce corps céleste qui nous a promis, où nous serons totalement à l'image de Jésus-Christ, transformés totalement à son image. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous avons cette espérance dans le cœur? Qu'est-ce qui se passe quand nous avons de l'espérance, en règle générale, dans le monde? Quand vous êtes plein d'espoir, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi un type de sentiment qui arrive à la joie. Quand vous êtes dans l'espérance, vous avez cette joie de vous dire, ben, il y a quelque chose que j'espère et qui va venir transformer totalement ma vie, qui va me permettre d'être totalement quelqu'un d'autre, qui va résoudre tous les problèmes que je peux avoir aujourd'hui. Oui, effectivement, qui dit espérance dit joie. La joie d'être libéré et sauvé, la joie de bénéficier de tout le ministère de Jésus-Christ sur terre. Cette joie de lui appartenir aussi, la joie d'appartenir à Christ pour l'éternité. Vous vous rendez compte de la portée de cette joie? Ce n'est pas une petite joie éphémère du fait d'avoir, comme les enfants tout à l'heure, reçu un petit raisin, un bonbon, par exemple, vous le mangez et puis bon, vous êtes dans la joie et puis c'est passé. Là, on parle vraiment d'une joie, pas d'une joie furtive, une joie permanente et totale. Pourquoi? Parce que le salut de notre Seigneur est parfait. C'est un salut qui vraiment est sans aucune restriction. Et si nous sommes dans la joie à cause de ce salut, c'est vraiment une joie immense qui n'a pas de restriction. Et c'est aussi ce que nous pouvons voir si nous remontons un peu dans un peu avant le texte que nous venons de lire dans Philippiens au chapitre 4. Si vous lisez au verset 4 dans le même chapitre, vous pouvez voir que l'apôtre Paul écrit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ce qu'on peut voir, c'est que le passage qu'on vient de lire au début de la prédication, il arrive dans un contexte où Paul est en train d'exhorter les Philippiens, d'une part, à demeurer dans la joie d'appartenir au Seigneur. Il insiste vraiment pour que cette joie soit une caractéristique permanente, soit une caractéristique de leur vie tous les jours. Une caractéristique qui marque aussi notre différence en tant que chrétiens par rapport au reste du monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui soit capable de nous apporter la même joie. C'est vraiment quelque chose qui nous est particulier et c'est quelque chose que nous devons vivre de façon réelle dans notre vie tous les jours. C'est très important aussi, on le voit dans le message de l'apôtre Paul, d'avoir le cœur ouvert, d'avoir de l'amour envers son prochain, d'être soucieux du bien-être de son prochain, en particulier dans la vie d'Église. Paul dit aussi autre chose, qui est important, je pense, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, ne vous mettez en souci pour rien. Avoir un détachement total par rapport à quoi? Par rapport à toutes les choses matérielles de ce monde. Ne vous mettez en souci pour rien. ça signifie aussi vivre dans la dépendance totale de Dieu. Le Seigneur, notre Seigneur, est vraiment disposé à porter tous nos fardeaux. Il est vraiment disposé à ce que nous lui remettons tout, tout à ses pieds. Il est vraiment disposé à subvenir à tous nos besoins. Et ça, il faut vraiment que nous en prenions conscience tous les jours dans notre vie. Et quand je parle de subvenir à tous nos besoins, je ne parle pas de remplir tous nos désirs. Il faut qu'on fasse vraiment la différence. Je ne parle pas de désir, je ne parle pas de convoitise, mais je parle de besoins réels. Et nous savons qu'en termes de besoins réels, personne n'est mieux placé que notre Père Céleste pour savoir de quoi nous avons besoin. Il nous connaît, il nous connaissait même avant que nous soyons nés. Il sait à chacun d'entre nous ici dans cette salle quels sont nos besoins. Et s'il nous dit qu'il est capable de remplir tous nos besoins, nous pouvons vraiment lui faire confiance en cela. Et nous pouvons vraiment nous reposer sur lui. Et si nous faisons confiance à notre Seigneur, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre état d'esprit? Je pense que c'est quand on parle de la paix que nous vivons en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui résulte directement de la confiance que nous mettons en Dieu. Si nous avons confiance en lui, si nous n'avons de soucis pour rien, notamment de rien de matériel, si nous savons, si nous avons confiance que le Seigneur, il est capable et il va le faire de remplir tous nos besoins, nous pouvons vivre en paix. Et en paix, ça ne dépend pas des circonstances. Nous pouvons vraiment, vraiment nous profiter de cette paix que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner chaque jour. Cette paix, c'est vraiment une sorte de cocon douillet, rassurant pour notre cœur. Mais pas que. C'est aussi un bouclier que nous avons vis-à-vis de toutes les attaques du malin. Nous pouvons les repousser en disant, « Va-t'en, moi je suis en paix et dans le Seigneur, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Alors en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vraiment avoir comme objectif d'être toujours dans la joie, mais pas d'une façon totalement utopique, pas d'une façon qui ne repose sur rien, mais parce que nous savons, nous avons des assurances en ce qui concerne notre Seigneur, ce qu'il fait dans notre vie et la manière dont il prend soin de nous. Alors, dans ce passage de Philippiens 4, chapitre 4, des versets 4 à 7, il y a un mot qui est dedans que j'ai fait exprès d'éviter, mais sur lequel je vais revenir de façon plus détaillée à partir de maintenant. Je n'ai pas mentionné volontairement le terme « reconnaissance », qu'on trouve notamment au verset 6. C'est vrai que dans le verset 6, il est écrit « Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Mais c'est vrai qu'avant de parler de reconnaissance, il fallait bien se mettre en tête dans quel contexte on est. Pourquoi finalement on aura envie d'avoir cette reconnaissance envers le Seigneur? Qu'est-ce que ça a comporté dans notre vie? C'est vrai que dans nos pensées normales, la reconnaissance est en général quelque chose que nous avons qui est un résultat, une conséquence d'une action, qui est une conséquence de quelque chose qui nous a fait plaisir. Voilà, nous avons un cadeau, nous sommes contents, nous avons de la reconnaissance. C'est quelque chose en général qui comble nos aspirations, nos désirs. Donc la reconnaissance, souvent, dans notre vie, on va dire dans la vie de... Dans le monde d'un homme normal, c'est quelque chose que nous allons lier à un moment précis, à des moments précis de notre vie, par rapport à des choses que nous recevons, par rapport à des choses que nous comprenons peut-être. Mais en général, nous l'avons de façon très ciblée, nous l'avons de façon très ponctuelle. Nous ne l'avons pas, ce n'est pas quelque chose que nous disons « je suis dans la reconnaissance » et puis voilà. Chaque fois que nous pensons en reconnaissance, nous faisons référence à quelque chose en particulier. Mais du coup, ce n'est pas quelque chose que nous embrassons finalement pour l'ensemble de notre vie en permanence. C'est vrai qu'en général, on peut être content d'avoir reçu un joli cadeau, mais l'instant d'après, vous serez beaucoup moins reconnaissant si vous recevez une insulte ou un coup de poing, par exemple. Vous ne serez plus dans la reconnaissance. En revanche, l'apôtre Paul, bizarrement, lui, il nous invoque, il nous exhorte à être toujours dans la joie, Mais quand il dit d'être dans la joie, il ne pose pas de conditions. Il dit, soyez dans la joie. C'est quand même un peu surprenant. Et par conséquent, soyez toujours reconnaissants. C'est une perspective qui est totalement différente de l'approche du monde. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de cause à effet. C'est un état d'esprit, c'est un état spirituel, parce que notre Seigneur, la vie que nous avons avec notre Seigneur, est quelque chose qui nous amène à ça. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Déjà, être reconnaissant en toutes circonstances, c'est déjà une manière pour nous de nous détacher des valeurs matérielles. Notre reconnaissance ne va plus être quelque chose de fluctuant en fonction d'un désir qui serait assouvi ou pas, en fonction de quelque chose que nous voulons, que nous aurions ou pas. C'est une bonne manière déjà de prendre du recul par rapport à tout ce qui est matériel dans ce monde, de se dire, je suis dans la joie, je suis reconnaissant pour ce que Christ a fait pour moi. Et ça ne dépend pas des circonstances dans lesquelles je suis dans le présent. C'est quelque chose aussi qui nous permet de nous tourner vers Christ. Si je suis reconnaissant envers Christ, mais je me tourne vers lui, j'essaie de comprendre tout ce qu'il a à m'apporter dans ma vie tous les jours, j'essaie de comprendre quelle est l'importance qu'il a dans ma vie, et je me pose des questions aussi par rapport à mon cheminement de vie, quelle est la place que je lui donne dans ma vie. Donc c'est un cheminement finalement qui est beaucoup plus spirituel que d'être dans la reconnaissance vis-à-vis de Christ plutôt que d'être dans la reconnaissance pour du fait d'événements ponctuels, du fait de conséquences, simplement de l'assouvissement d'un désir ou d'une certaine volonté. Et donc, comme je le disais, dans cette optique-là, la joie, la paix, la reconnaissance ne dépendent plus de circonstances. Elles reposent uniquement sur Dieu. Et donc, dans cette optique-là, on peut envisager que la reconnaissance soit vraiment quelque chose qui soit permanent dans notre vie. Parce que nous savons que Christ nous aime. Il nous aime infiniment. Et en plus, Christ ne change pas. Il est le même, il est hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Nous savons que nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances. Alors, ce n'est pas si facile. Hein. Je dirais déjà, si je prends mon cas, cette semaine, ce matin, il y a déjà eu plein de moments où je n'étais pas dans la reconnaissance. Il y a déjà eu plein de moments où je me suis énervé, il y a déjà eu plein de moments où j'étais en stress, il y a déjà eu plein de moments où vraiment, je n'avais pas Christ en tête, où je me disais, ah, mais ce n'est pas possible, je ne trouve pas mon stylo, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui va, je ne trouve pas ma tablette, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les enfants ont dormi aussi tard, il y a plein de choses, à un moment donné, qui vous sortent de ça, et vous n'êtes pas forcément dans la reconnaissance à tout moment, ça, il faut vraiment le reconnaître. Mais il faut aussi avoir en tête que c'est un objectif, et c'est notamment un objectif que Paul veut nous assigner, à nous chrétiens, de dépendre toujours plus de Christ, de dépendre toujours plus de la joie que Christ peut nous apporter, de dépendre toujours plus de la paix du Christ. Et notamment au verset 10, il écrit « Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur ». Alors là, ce qu'on voit dans cette phrase, c'est que c'est vraiment la manière dont Paul l'exprime, c'est que ce n'est pas une joie à cause de quelque chose qu'il aurait reçu. Ce n'est pas une joie à cause de quelque chose qu'il aurait vécu dans l'instant. Nous savons que dans l'instant, nous pouvons vivre plein de choses qui sont soit tristes, soit joyeuses, parfois particulièrement douloureuses. Et vous savez que beaucoup de membres dans l'Église, et tous les uns les autres, à des moments, et récemment, nous avons pu traverser des événements très très douloureux. C'est une joie que nous avons dans le Seigneur, parce que nous réalisons que tout est une grâce de sa part. Et je reviens à la phrase que l'apôtre Paul dit, « Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur. » Oui, tout est grâce. Avec Christ, tous les instants de notre vie sont une grâce. Tous les instants de notre vie sont des instants de bénédiction, des instants de pardon, des instants de rédemption. Tout est grâce dans notre vie et tout est une occasion de reconnaître la grâce qui nous vient du Seigneur. Et si je lis le verset 10 en entier, donc ce qui est écrit, c'est « Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. » Là, on voit que dans ce passage, Paul remercie les Philippiens pour les dons qu'ils lui ont faits, tout en faisant référence au Seigneur. Même si ces dons sont faits par des personnes humaines, proches de lui, comme on l'a dit, il était particulièrement proche des Philippiens, il considère quand même ces dons comme, en premier lieu, comme une grâce que lui fait le Seigneur, une grâce venue de Dieu. Alors pourquoi Paul peut être persuadé que ce don de la part des Philippiens est un don de Dieu, une grâce du Seigneur ? Pour cela, pour avoir un peu plus de contexte sur ce don, justement, ces dons qui sont faits par les Philippiens à Paul, je vous propose de nous reporter un petit moment dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, qui nous donne un peu plus de contexte sur dans quelles circonstances les Philippiens ont pu être amenés à vouloir soutenir Paul dans ses épreuves dans sa prison. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1, je lis, disons au nom du Seigneur. « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépensant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » Reposons-nous cette question. Pourquoi Paul reçoit ce don des Philippiens comme une grâce de Dieu? Une des raisons possibles, une des premières raisons possibles que je vois, c'est que Paul fait en premier référence à la grâce de Dieu parce que ce don, finalement, il n'a pu être réalisé que par la grâce de Dieu. Quand on voit dans quelle situation étaient les Philippiens tels qu'il nous est décrit dans ce passage, on dit, elles ont été mises à l'épreuve, donc les églises de Macédoine, par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils sont allés à la limite de leurs moyens et même au-delà. Les églises de Macédoine étaient elles-mêmes dans une situation très très précaire, en grande difficulté financière. Il est écrit qu'elles étaient même dans une extrême pauvreté. Elles sont dans la détresse et pourtant, par reconnaissance à Dieu, elles sont quand même animées d'une joie débordante. Ça nous ramène à ce que je disais au début. Malgré ces circonstances de détresse, de pauvreté extrême, elles sont animées d'une joie débordante. La reconnaissance envers Dieu ne dépend pas de circonstances fastes ou joyeuses. Elle doit être permanente, parce que tout est grâce. Et les chrétiens de Philippe nous apportent un exemple vraiment concret de reconnaissance et de joie, purement spirituelle, à cause du salut en Jésus-Christ. Et si ce don a pu être réalisé, c'est clairement que le Seigneur est intervenu. C'est clairement que lui-même, à un moment donné, il a pourvu à ce qu'il fallait, puisqu'on dit que les chrétiens de Macédoine n'avaient même pas de superflu à donner. Ils manquaient du nécessaire, du minimum pour eux-mêmes. Donc l'apôtre Paul peut vraiment considérer que ce don, il est vraiment quelque chose qui lui vient de la grâce du Seigneur. Le Seigneur est venu en aide aux chrétiens de Philippe, qui tenaient vraiment à apporter leur aide aux chrétiens de Jérusalem et à l'apôtre Paul aussi en particulier. Et je pense qu'ils ont dû prier dans ce sens. Et il se trouve que ces prières, elles vont dans le sens de la volonté du Seigneur, que d'aider son prochain, de manifester de l'amour pour son prochain, de manifester de la solidarité pour un ou plusieurs frères en Christ. Mais ça pose quand même de vraies questions pour nous aujourd'hui. Parce que quelle est notre conception de la solidarité finalement en général ? Est-ce que nous, quand nous pensons à la solidarité avec les autres frères et sœurs, est-ce que nous ne pensons pas plutôt à donner un peu de notre superflu, donner ce qui ne va pas nous faire trop mal, donner ce qui ne nous dérange pas trop. Là, on voit que les chrétiens de Philippe, ils ont une approche totalement différente. Ils n'avaient pas déjà le nécessaire pour eux, et ils sont même allés au-delà de ce qu'ils avaient. Et tout cela en raison de leur attachement à Jésus-Christ. Parce que aussi, à un moment donné, ils ont fait une totale confiance en Jésus-Christ sur le fait que Jésus-Christ pourvoira à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment une approche que des chrétiens, que des enfants de Dieu peuvent avoir, qui est totalement différente du mode de pensée dans le monde. Au contraire, on voit que les chrétiens de Macédoine, non seulement ils sont animés d'une joie profonde, une joie qui est inexplicable finalement dans leur situation, mais en plus, ils ne veulent pas en rester là. Ils cherchent tous les moyens possibles pour venir en aide à Paul, qui est en grande difficulté, peut-être en plus grande difficulté encore par rapport à eux. Et Dieu va leur faire grâce et leur permettre d'accomplir ce projet. Et de ce fait-là, je peux dire que Paul a une raison évidente, une raison pratique de dire que, de se réjouir de ce qu'il reçoit, il le reçoit à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est bonne, qui est bon pour lui, mais aussi pour les chrétiens de Philippe. Une autre raison aussi possible qu'on peut invoquer, c'est que si Paul fait en premier lieu référence à la grâce de Dieu dans le don qu'il reçoit, c'est aussi parce que la motivation des Philippiens, elle est ancrée dans la grâce de Dieu. Sinon, comment est-ce qu'ils pourraient avoir la motivation de donner alors qu'eux-mêmes n'en ont pas? Les chrétiens de Philippe, ils avaient à cœur de manifester leur solidarité envers ceux de Jérusalem, pour honorer une promesse qu'ils avaient faite dans le passé. Ils ont à cœur de louer et de glorifier Jésus-Christ à cause du salut qu'ils ont reçu dont ils sont au bénéfice. Et on le voit bien, malgré leur situation, ils sont dans une joie débordante, malgré leur situation très difficile d'un point de vue matériel. Ils sont même allés au-delà de ce qu'ils avaient. C'est vrai que la manière dont je le vois, c'est que le don des chrétiens de Macédoine, c'est vraiment un acte de soumission, un acte d'adoration avant tout pour notre Seigneur. Un acte qui marque leur attachement au Seigneur et qui produit du fruit dans leur vie. Il y a des conséquences visibles dans leur vie du fait qu'ils soient attachés à Jésus-Christ, qui font qu'ils sont différents du monde autour d'eux. Il y a des conséquences visibles dans leur vie du fait qu'ils soient attachés au Seigneur. Il y a un détachement par rapport aux valeurs du monde. Il y a un détachement par rapport à la mode de pensée du monde qui est totalement différente. Et ça résulte du fait qu'ils aient fait ce choix de l'attachement au Seigneur Jésus-Christ. Ça leur permet d'avoir un amour particulier, d'avoir une solidarité particulière qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est vrai que l'amour de Dieu et sa grâce, ça surpasse complètement nos limites humaines. Le Seigneur, il est capable d'accomplir des miracles qui, à nous, nous sont inaccessibles. C'est-à-dire que finalement, quand nous avons de l'amour, nous ne devons pas nous arrêter à nos limites humaines, nous ne devons pas nous arrêter à nos limites matérielles pour finalement accomplir des actes. Si nous nous remettons au Seigneur, lui, il est capable d'accomplir ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et finalement, les chrétiens de Philippe, ils ont été capables, finalement, en se remettant au Seigneur, d'aider Paul avec ce qu'il n'avait même pas. C'est vrai qu'il est dit au verset 5, « Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » Paul rend gloire à Dieu. À lui seul revient la gloire, car sa grâce nous submerge en toutes circonstances. Et c'est aussi pour cela que Paul est plein de reconnaissance envers le Seigneur. Avant même de remercier les serviteurs qu'il a utilisés et équipés pour lui apporter de l'aide. C'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui fait grâce, c'est le Seigneur qui accomplit des œuvres merveilleuses en nous utilisant selon sa volonté à lui. Et c'est vraiment au Seigneur que toute la gloire doit revenir dans tout ce que nous faisons. C'est lui qui est à l'origine de notre foi. C'est lui aussi qui nous conduit à faire des œuvres qui portent du fruit de la repentance. Et Paul a vraiment parfaitement raison d'être reconnaissant envers notre Seigneur de tout ce qu'il accomplit dans sa vie. de la manière dont il l'aime, de la manière dont il le console, de la manière dont il le fortifie dans une situation très, très difficile, dans l'épreuve. À l'image de Paul, soyons tous les jours reconnaissants envers le Seigneur pour tous les bienfaits, pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour sa grâce qui a une portée vraiment infinie. Notre Seigneur ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Si nous poursuivons notre lecture dans notre texte d'origine, dans Philippiens chapitre 4, au verset 11, il est dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, important, dans ce que Paul affirme, c'est qu'il ne dit pas « je pourrais peut-être tout, peut-être avec un peu de chance, je pourrais arriver à tout ». Non, il est vraiment très affirmatif, sans la moindre hésitation. « Je peux tout ». Mais il ne s'arrête pas à « je peux tout » parce qu'il ne s'agit pas de lui-même. « Je peux tout ». Grâce à celui qui me fortifie. On peut vraiment admirer la sérénité et la confiance de Paul en Jésus-Christ, parce que lui-même, il a expérimenté déjà maintes fois concrètement l'amour de Dieu pour lui, dans des circonstances très, très difficiles de sa vie, dans la persécution, dans l'emprisonnement. Et c'est vrai que c'est assez marquant de voir que Paul... Ben finalement, il fait tout le contraire de ce que la plupart d'entre nous feraient dans sa situation. Nous, je pense que si on était persécuté au point où il était persécuté, si on était dans la situation où il était, je pense que moi, je serais en train de me plaindre et demander au Seigneur de me tirer de là le plus vite possible, parce que je n'en peux plus. Mais Paul, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il n'est pas triste ni déprimé, il est dans la joie. Et mieux encore que dans la joie, il est reconnaissant de ce que le Seigneur fait dans sa vie. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est de réaliser à quel point nous devons d'être reconnaissants envers notre Seigneur. Mais il ne faut pas que nous le prenions comme une sorte d'obligation religieuse. Forçons-nous à être reconnaissants envers le Seigneur. Je pense que ce n'est pas du tout ça, cette idée. L'idée, ce n'est pas de nous efforcer d'être reconnaissants, sinon nous risquons d'être sanctionnés ou punis ou quoi que ce soit de ce genre. Au contraire, la reconnaissance est quelque chose que le chrétien cultive, mais il le cultive pour puiser sa force dedans. C'est quelque chose qu'il souhaite parce que finalement, c'est ça qui va lui donner cet attachement à Jésus-Christ, c'est ça qui va lui donner la force dont il a besoin, mais finalement pour être dans la paix tous les jours. Cette reconnaissance, ce n'est pas simplement quelque chose d'accessoire, une option. C'est vraiment dans cette reconnaissance que nous rendons compte de tout ce que le Seigneur Jésus fait pour nous dans notre vie tous les jours. Et avec cette reconnaissance, c'est un acte d'adoration, mais c'est un acte aussi de soumission, c'est un acte où nous restons ancrés dans le Seigneur Jésus-Christ tous les jours en étant reconnaissants. Nous savons, quelle que soit l'adversité, qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire. La victoire est certaine. Et c'est pourquoi notre reconnaissance ne dépend pas des circonstances. Nous avons la capacité de voir plus loin que ce que nous vivons au jour le jour, aujourd'hui. Et même, je dirais, que c'est dans la difficulté, finalement. Parce que si Paul a cette assurance en Jésus-Christ, c'est parce que lui, il a vraiment connu des difficultés extrêmes. Et c'est finalement dans cette difficulté qu'il s'est rendu compte mais que le Seigneur était avec lui. C'est dans cette difficulté qu'il s'est rendu compte que le Seigneur l'a aidé. C'est dans cette difficulté qu'il s'est rendu compte de la force qu'il pouvait avoir en puisant dans le Seigneur. Et probablement que s'il n'avait pas connu cette difficulté, il ne réaliserait pas à quel point il peut faire confiance au Seigneur. C'est finalement dans la difficulté que cette confiance au Seigneur grandit et qu'on peut apprendre au fur et à mesure, de plus en plus, à lui faire confiance, à être dans la joie, et être reconnaissant en toutes circonstances. Soyons reconnaissants envers le Seigneur tous les jours parce qu'il le mérite. Parce que c'est une source de force et de persévérance pour chacun d'entre nous. Et Paul est très clair là-dedans. Il est très clair sur ce concept parce qu'il écrit qu'il ne dépendait pas des dons des chrétiens pour être dans la joie. Il est bien sûr heureux de recevoir ces dons. Mais il est dans la joie déjà dès le départ et ensuite il reçoit ses dons. Et je pense que c'est très important de voir dans quelle perspective il se place. Il ne dépendait pas des dons des chrétiens de Philippe pour être dans la joie. Et il le fait savoir, il écrit explicitement. Mais malgré ça, quand même, il est reconnaissant aussi envers les chrétiens de Philippe de ce qu'ils font pour lui. Et il a même un message d'encouragement très particulier pour eux. Et nous pouvons lire dans la suite au verset 14, qui est écrit « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. » Évidemment, même si Paul sait qu'il dépend avant tout de la grâce de Dieu, il n'est pas ingrat, sous prétexte que rien d'autre que Christ, qui n'a rien d'autre que Christ comme richesse dans sa vie. Il exprime d'une façon très explicite aussi sa reconnaissance envers les Philippiens pour tout ce qu'ils ont fait pour lui en plusieurs occasions. Et il le fait même d'une façon très délicate et très belle, je trouve. Il les rassure sur le fait qu'il est parfaitement conscient des énormes sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver à lui apporter cette aide. Et ils ont eu tellement de mal à le faire que ça a pris un certain temps. Donc il ne leur en veut pas que ça ait pris du temps. Il reconnaît derrière qu'il y a eu des sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver à lui apporter cette aide. Et en plusieurs occasions en plus. Il les remet aussi à l'honneur dans le fait qu'ils sont finalement la seule église, mais qui s'est autant préoccupée de lui quand il y en a d'autres auxquels Paul a écrit des épîtres, des Éphésiens, Corinthiens, Romains, qui n'ont pas été aussi empressés auprès de Paul. Et il le dit d'une façon claire. Il est conscient qu'il a toujours été soutenu par eux en plusieurs occasions. Il est conscient qu'ils sont la seule église qui s'est fixée comme priorité de lui venir en aide en plusieurs occasions, quand d'autres sont restés inactifs. Alors c'est vrai, Paul est reconnaissant en premier envers Dieu pour la grâce illimitée que le Seigneur Jésus lui donne, mais il n'oublie pas d'être reconnaissant envers ses bienfaiteurs. Il n'oublie pas d'être reconnaissant, et derrière, il y a une raison qui, je pense, est très, très importante. Dans ses paroles de reconnaissance vis-à-vis des chrétiens de Philippe, il a aussi en tête de les encourager. Il a aussi en tête de les encourager à persévérer dans la voie où ils sont. Donc finalement, sa reconnaissance n'est pas simplement un merci, mais il sait que cette reconnaissance, elle a un impact sur eux. Elle a un impact d'encouragement. Elle a un impact pour les aider à persévérer. Elle a un impact aussi pour les remercier de tout ce qu'ils ont dû faire pour lui. Donc la reconnaissance, ce n'est absolument pas inutile. L'apôtre Paul nous montre l'exemple dans le fait que reconnaître les mérites de nos frères en Christ et les encourager pour ça, ça fait aussi partie de la vie du chrétien, et notamment de la vie du chrétien dans l'Église, dans la communion fraternelle. Et ce n'est pas une option facultative. Nous, enfants de Dieu, même si nous puisons en priorité notre motivation, notre force en Christ, même si c'est Christ qui doit être élevé en premier et glorifié dans tous nos actes, nous avons aussi besoin d'être encouragés dans tout ce que nous faisons. Nous avons aussi besoin d'être encouragés dans le cadre de l'Église, dans la communion fraternelle, dans la vie d'Église et même dans la vie de famille aussi. N'oublions jamais que c'est utile et vraiment encourageant de remercier nos proches quand ils font des choses pour nous qui sont positives. N'oublions jamais d'être pleinement reconnaissants à l'image de l'apôtre Paul quand nous recevons des dons, quand nous recevons des services. Parce que c'est aussi un encouragement pour les personnes qui reçoivent la reconnaissance, à rester